commence ce journal des sciences de la semaine avec Epikov, la grande enquête de l'INSERM parue aujourd'hui. Selon cette étude, le Covid-19 exacerbe les inégalités sociales.
Et cette étude a été conduite en mai sur un échantillon représentatif de plus de 135 000 personnes. Elle allie une perspective épidémiologique qui documente les tests sérologiques et en même temps, elle nous renseigne sur les conditions de vie des personnes. À ce sujet, c'est l'enquête la plus complète à ce jour. Elle donne une vue globale de l'épidémie dans toute sa complexité. Alors déjà, ça confirme qu'en mai, seuls 4,5% de la population à échelle nationale a été touchée par le virus. Mais selon où vous vivez, la prévalence n'est pas la même. Par exemple, dans le département de la Seine-Saint-Denis, cette prévalence atteint les 11%. Nicolas, vous nous en parliez en avril déjà dans votre radiographie du coronavirus, et ce papier le confirme. L'épidémie touche d'abord les plus mal logés, les plus précaires, les professions essentielles, mais aussi les plus riches. Nathalie Bajos, directrice de recherche à l'INSERM, est la co-responsable de l'enquête Epikov.
On a pu identifier clairement les facteurs qui étaient liés au fait d'avoir un test positif. C'est très important parce que ce sont beaucoup des facteurs qui renvoient aux conditions de vie des personnes. En particulier, le fait de vivre dans une commune de forte densité, qui est très associé au fait d'avoir un test positif, de même que le fait d'être nombreux dans un foyer. Il y a un autre facteur qui est un peu plus attendu, je dirais, mais qui est objectivé pour la première fois dans cette enquête, c'est le fait d'avoir exercé une profession dans le domaine du soin, donc il s'agit des médecins, des infirmiers, infirmières ou des aides-soignantes. Donc c'est extrêmement important parce que les résultats de cette enquête attestent de l'importance des conditions de vie pour rendre compte d'une exposition au virus à travers un test sérologique. C'est aussi un des résultats fondamentaux de notre recherche, c'est la dimension cumulative des inégalités sociales, c'est-à-dire les personnes qui cumulent et le fait de vivre dans une région, dans une commune très dense, et de vivre dans un logement surpeuplé, et d'être sorti pour travailler. Donc vous voyez des indicateurs qui renseignent sur l'exposition au virus. Et je prolongerai volontiers en disant que ces mêmes personnes sont aussi souvent les mêmes qui ont vu leurs conditions de vie se dégrader dans le contexte de l'épidémie.
On peut dire que le Covid-19 est une épidémie de classe ?
Oui, on peut dire que c'est une maladie qui est très socialement marquée et très clairement, les personnes qui se sont contaminées pendant le confinement sont plus des personnes de milieux populaires. Donc on est passé d'une épidémie qui touchait essentiellement les catégories favorisées avant le confinement, qui s'explique d'ailleurs par le fait que les cadres supérieurs sont des personnes qui sont plus amenées à sortir, à voyager, à avoir des interactions sociales. Et le confinement arrivant, ces catégories ont été, on peut dire, protégées par le développement spectaculaire du télétravail. Un cadre sur deux, par exemple, a uniquement télétravaillé pendant la période de confinement, alors que ce chiffre n'est que de 1% dans les milieux ouvriers. Donc vous voyez un impact très différent de cette politique de confinement qui a été appliquée de manière universelle, mais dont les effets ont été positifs pour tout le monde, mais beaucoup plus positifs pour certains groupes sociaux que pour d'autres.
Voilà, les détails de cette enquête Epikov de l'INSERM, vous pouvez les retrouver, on les a postés comme tous les jours sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Vous pouvez les retrouver également sur la page de l'émission sur franceculture.fr. En bref, maintenant, Natacha, selon une étude parue dans la revue British Medical Journal, des règles irrégulières peuvent être liées à une mort précoce.
Et c'est une étude américaine qui comble un manque de données sur la santé des femmes. Alors, chez les femmes, on considère qu'un cycle est irrégulier lorsqu'il dépasse les 40 jours. On sait qu'ils sont associés à un risque plus élevé de cancer de l'ovaire, de maladies cardiaques ou d'autres problèmes de santé. Les données collectées depuis 1989 sur près de 80 000 femmes en bonne santé montrent que celles qui ont des menstruations irrégulières sont plus susceptibles de mourir prématurément que celles qui ont des cycles réguliers. Un risque supplémentaire de 39%. Alors attention, les menstruations irrégulières ne sont en aucun cas un diagnostic. Néanmoins, cela indique que les règles peuvent être un baromètre de la santé globale à long terme.
La CNIL, la Commission nationale de informatique et liberté, vient d'autoriser l'application Tadata, une application qui rémunère les moins de 25 ans contre leurs données personnelles.
Et suite à une plainte d'Internet Society France, une association de défense des internautes, l'application avait été mise en arrêt cet été. Alors, Tadata propose aux 15-25 ans d'échanger leurs données personnelles auprès des annonceurs contre quelques euros ou des bons d'achat. Sur le site, on peut lire: on ne vend plus tes données dans ton dos, on fait tout dans la transparence. On suspectait un Tadata de ne pas respecter tous les points du RGPD, le règlement européen sur les données personnelles. La CNIL ne voit aucune objection contre ce projet.
Deuxième sujet de ce journal des sciences de la semaine, selon une étude apparaître dans la revue The Planetary Science Journal, il pourrait y avoir des fragments de Vénus sur la Lune.
Et pour étudier Vénus, pour comprendre si cette planète a eu une atmosphère similaire à la nôtre ou s'il y a eu des océans liquides à sa surface, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Ce sont les conclusions de cette équipe américaine. On sait que les impacts d'astéroïdes se sont produits plus fréquemment sur Vénus il y a des milliards d'années. Alors selon ce papier, de la matière de Vénus a pu être éjectée de la planète par des météorites, puis se mettre en orbite autour du Soleil, pour ensuite, au fil des années, arriver au niveau de l'orbite de la Terre et donc tomber sur la Lune. Grâce à des analyses isotopiques de roches lunaires, on pourrait déterminer leur origine, si ces roches viennent de Vénus, et si c'est le cas, en savoir plus sur l'histoire géologique de cette planète. Léa Gritton est docteure en astrophysique à l'IRAP de Toulouse et membre du comité de rédaction de la revue Astronomie.
Sur la Terre, le problème, c'est qu'on a de la météo, des phénomènes météorologiques, de l'activité, etc., qui a effacé sans doute des traces très anciennes d'impact. Mais sur la Lune, comme il n'y a ni vent, ni pluie, ni rivière, etc., les impacts très anciens ont pu être conservés. Alors là, on parle d'échelles de temps très longues, 4,5 milliards d'années. Ils ont fait une étude de mécanique spatiale à très long terme, donc ils utilisent des modèles mathématiques qui permettent d'étudier des trajectoires de particules sur des milliards d'années. Et notamment, ils montrent que l'orbite de Vénus, et ensuite vu la physique de la trajectoire de ces particules qui peuvent être éjectées de Vénus, la physique fait que en fait, ces particules peuvent se retrouver en fait, au bout d'un certain temps au niveau de l'orbite de la Terre, et donc de la Lune. Et donc c'est pour ça qu'en fait cet article, c'est un appel à poursuivre l'exploration lunaire et notamment pour rapporter des échantillons, et ça c'est très important, parce que donc sur Terre on a des moyens exceptionnels pour analyser les roches, et notamment ensuite on a différentes teneurs en différentes matières, et notamment en eau, qui permettraient de distinguer ensuite les roches venant de Vénus ou les roches venant de la Lune. L'intérêt de cet article, c'est de démontrer qu'on peut effectivement, en allant sur la Lune, faire beaucoup plus que juste étudier l'histoire de la Lune ou de la Terre. Il faut aller chercher partout et ça amène des informations ensuite sur toute l'histoire du système solaire.
En bref, selon une étude parue dans Journal of Anatomy, l'évolution anatomique de l'espèce humaine se poursuit.
Et ce sont des chercheurs australiens qui ont remarqué ce subtil changement de notre anatomie. Après l'autopsie de plus de 80 corps et une comparaison avec des données vieilles de 1880, nous sommes de plus en plus nombreux à posséder un vaisseau sanguin supplémentaire au niveau du poignet. Alors c'est plus ou moins une surprise, parce que depuis le 18e siècle, les anatomistes l'étudient. Cette artère médiane se forme assez tôt chez le fœtus, puis elle est censée disparaître au cours de la croissance. Elle est 3 fois plus courante aujourd'hui. Alors peut-être parce qu'elle permet une meilleure irrigation des doigts, on ne sait pas. Mais si cette tendance se poursuit, une majorité de personnes auront cette artère d'ici 2100.
Tout le monde en studio a regardé ses poignets, je tiens à le dire. Et je pense que vous avez fait la même chose chez vous. Allez, cette semaine, on a évidemment beaucoup parlé des différents prix Nobel tout au long de la semaine, lundi, mardi, mercredi et jeudi. On ne va pas revenir dessus. On peut vous remettre les liens sur notre fil Twitter. Il a également été question tout de même des données dont dispose le gouvernement pour prendre ces mesures de restriction sur la pandémie de Covid-19, mais également dans l'actualité des sciences. Cette semaine, Natacha est en ultra bref.
Cette semaine, une enquête de l'OMS sur 130 pays montre que la pandémie de Covid-19 a perturbé ou interrompu les services essentiels de santé mentale dans quasiment tous les pays. De plus, entre les deuils, l'isolement, une précarité et une anxiété à la hausse, l'OMS annonce que la demande en matière de santé mentale augmente. Elle préconise plus de ressources pour ce pan négligé par les politiques de santé publique. Le ministre de l'Intérieur a déclaré que les certificats de virginité seront interdits en France. Les médecins qui réalisent cette attestation médicale risqueraient 1 an de prison ferme et 15 000 euros d'amende. Un nouvel article serait ajouté au Code de la santé publique contre cette pratique marginale. Et enfin, SpaceX vient de signer un contrat avec le Pentagone. D'ici 2022, la compagnie d'Elon Musk va construire pour l'armée américaine 4 nouveaux satellites militaires pour détecter les missiles. Et notamment les missiles balistiques intercontinentaux qui parcourent de longues distances et qui sont difficiles à localiser. SpaceX continue donc d'étendre son empire et les États-Unis renforcent leur défense spatiale.
Et comme chaque vendredi, on termine par la rubrique de science improbable. Selon une étude parue dans Scientific Reports, pour communiquer avec votre chat, vous pouvez lui faire des clins d'œil lents.
Oui, vous avez peut-être déjà vu un chat cligner des yeux et les rétrécir tout doucement dans votre direction. Alors ce n'est pas du tout parce qu'il somnole ou parce qu'il s'endort. Des chercheurs britanniques ont mené une série d'expériences avec une 40aine de matous et ils prouvent que ce mouvement de paupières tient un rôle dans la communication chat-humain. Il serait l'équivalent d'un sourire pour chat. Les scientifiques ont pu même confirmer que cette expression permet aux félins, qu'ils vous soient proches ou étrangers, de s'approcher et d'être réceptifs aux humains. Voilà, j'imagine que tous les propriétaires de chats sont en ce moment en train d'essayer ce clin d'œil.
Moi, ça fait très longtemps que je le pratique. Moi, j'appelle ça des bisous de chat. C'est consternant, mais oui, c'est vrai que je communique comme ça avec Gaston.